Et bon, pour mettre un peu en contexte, comment je rentre dans les théâtres, comment je commence l'écriture théâtrale, c'est les coups de tasse m'apprennent. J'étais très jeune et militant d'une partie en 1973. Et j'étais exilé pendant 10 années en Europe. Les premières années, j'ai fait la sociologie de la culture et après, j'ai dû faire des études du cinéma. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais une nécessité dans ce moment, en plus l'esprit de l'époque, et politique de m'exprimer face à face ce qui passait dans mon pays, qui passait au Chili, qui passait avec moi en tant que double exilié, quoi, exilié de mon pays, en plus exilié à Bruxelles, d'abord en Angleterre, après Bruxelles. J'ai fait des études à l'ANSAS et puis au Centre d'études théâtrales de Louvain-la-Neuve. Et à un moment donné, j'écris ma première pièce, je la monte là, Opéra pour un naufrage, et qui mélangeait le cinéma avec. Parce que comme j'avais étudié le cinéma, je n'avais pas arrivé à finir un film. Donc les films qui restaient, je les faisais en théâtre. Alors le spectacle était morceau de film avec morceau de théâtre, mais avec aucune intention de faire une mise en scène, seulement parce que le discours était divisé, quoi. Il n'y a pas eu à arriver à finir les films, donc. Je trouvais que c'était une bonne occasion pour le faire. Et puis, j'ai fait une deuxième pièce, Altazor Equinox. Et évidemment, là-dessus, je me suis rendu compte que les théâtres que je faisais, ce n'était pas pour les montrer ici. Hein? Même s'il y avait arrivé à avoir des petits moyens, du théâtre expérimental belge, etc., et les pièces avaient eu de bonnes critiques, j'ai dit non, ces théâtres, c'est pour les faire dans mon pays. Alors, j'ai décidé en 80. Tous, hein, et de retourner à Santiago et pour monter des pièces, les pièces. Et donc, quand je tourne à Santiago, c'est pleine dictature, l'espace théâtral qu'il y a sont très peu, je lui montre mes textes, il ne les comprend pas, il trouve que je viens de la Lune. Tout le monde me dit que le mieux que je peux faire, c'est retourner. Hein, si tu as déjà ta place là-bas, pourquoi tu viens ici en ce moment et tu es complètement hors cadre, et puis tes pièces, ce n'est pas des pièces de théâtre. Hein. Il y a du cinéma, il y a la littérature, mais on ne comprenait pas la légende d'écriture. Donc, j'ai rencontré des gens, et on a loué un grand hangar qui était en fait le lieu d'un ancien syndicat de conducteurs de trolleybus. Dans ce hangar et le trolley, j'ai commencé à. J'ai dit, bon, c'est ici, parce que ma première pièce que je voulais monter, ça s'appelait Histoire d'un hangar abandonné.
En espagnol.
Historias d'un galpón abandonado. Hein? Alors, c'était la situation du pays, etc. Alors, j'avais besoin, pas d'une scénographie, mais d'un hangar abandonné. Hein? Et on trouve ça. Et évidemment, on n'avait pas de permis pour faire des théâtres, etc., etc. Donc, j'ai dit, bon, je le monte. Et j'ouvre cet espace. Et de toute façon, si je vais demander du permis, on va me dire que non. Donc, je le fais, et si on le ferme, on le ferme. Hein? Donc, mais comme c'était alors, on a mis les choses comme c'était des activités de ce syndicat, que c'était le seul syndicat permis, parce que c'est ce syndicat des pensionnés. Donc, pour la dictature, les pensionnés n'avaient pas de problème, parce que les pensionnés ne peuvent pas faire la grève. Quoi. Donc, comme c'était dans les activités sociales d'un syndicat des pensionnés, et j'ai commencé à faire des fêtes, hein, pour. Et financier, mais des fêtes qui étaient très spéciales aussi à l'époque, parce qu'il était des fêtes avec des interruptions ou des morceaux de la pièce qu'on allait monter, pour que les gens sachent, ou des performances que dans les cadres, d'abord, c'était avec toute la résistance à Pinochet, était artistique, était très, tu vois, triste, dans un certain sens, plus années 70, quoi. Et ici, on était sur scène avec des télévisions sur l'épaule, avec les Pinochet qui parlaient. On faisait des chorégraphies, on mettait la chanson Oh, only you can make the world go round. Donc ça faisait déjà. Et là-dessus, j'ai fondé la compagnie Théâtre Fin du siècle. Et dans cet espace qui s'appelle le Trolley, et vraiment avec le temps, les gens sont commencés à arriver dans la musique, du vidéo, d'autres groupes théâtraux, etc., qui étaient aussi très marginalisés, trouvaient qu'il y avait un espace. Et beaucoup de la rénovation culturelle d'aujourd'hui du Chili, ses premières expériences sont passées dans cet espace. Et donc, j'ai monté Histoire d'un hangar abandonné, avec les gens là. Et puis, successivement, on a monté des pièces avec la troupe, ou cette troupe-là aussi, dans cette troupe du théâtre fin des siècles, et sortent beaucoup de comédiens à cette époque-là, sont aujourd'hui les principaux auteurs, directeurs du théâtre chilien des années 90. Ça fait c'est tout un courant, ce mouvement qui a duré entre 83 et 89, cet espace. Hein? Et là, mes premières pièces sont un peu espace et texte. Hein? Espace territorial, espace d'esprit, et aussi une écriture qui se lie directement à la construction d'un espace. Hein? Mes premières pièces, les textes sont tellement liés à l'espace qu'on ne peut même pas les monter si on ne fait pas les mêmes espaces. Hein? Chose qui ne passe pas, évidemment, avec mon écriture après. Il a Cinéma Utopia, qui c'était comme on fait la grande... une grande pièce, d'une certaine façon, je viens de la remonter maintenant, qui était un symbole pour la résistance à ce moment. Et là, c'était un ancien cinéma où venaient des spectateurs au cinéma, le décor était le cinéma entier avec l'écran. Et c'était le Chili des années 40, ou ça pourrait être n'importe quel cinéma des années 40, où il arrivait tous ces gens très solitaires, tous les jours, à voir des films. Hein, et où le monsieur qui les recevait n'avait jamais sorti du cinéma, venait comme des personnages isolés, atomisés, comme était le Chili, venait le monsieur avec son lapin, hein, une femme qui venait tout le temps parce qu'un jour on l'avait embrassé, et on a dit reviens demain, et revenait tous les jours pour voir un film mongolique, etc. Il y avait une espèce de fauna, hein, et très nostalgique, qui venait voir les films. Donc, on commençait avec les films sur l'écran, mais là c'est bien, mais l'écran fondait avec les scènes qui étaient derrière, qui étaient les mêmes que les films. Donc, les films qu'on voyait dans l'écran, c'était une autre pièce de théâtre, mais c'était une pièce de théâtre du futur pour les spectateurs. Les pièces passaient en 1995. Hein? Et c'était la situation des exiliés en France, qui rêve avec leur petite amie des détenus disparus, où l'exilé en foi était bisexuel, ou il était vraiment aussi la marginalité, il s'injectait l'héroïne. Chose que ça frappait beaucoup, parce qu'on avait une idéalisation de que c'était un exilé, donc on ne pouvait pas. Les gens, disons, très existants, croyaient que c'était une pièce presque. De l'autre côté, parce que comment on peut mettre quelqu'un qui s'injecte l'héroïne, hein? Tu as l'idée, l'image Che Guevara, viril, qui danse pas, etc. Bon, mais, et ça, ça allait par chapitre. Alors, pendant quelques jours, les gens venaient voir ce spectacle, et ça commençait une relation entre qui passait dans l'écran, qui était du théâtre, mais fait d'une façon, avec une narrative visuelle cinématographique, il avait beaucoup de plans à l'intérieur. Et là, ça, c'était, disons, comme une des pièces d'écriture liées à l'espace, avec de temps différents. En plus, le temps, ça déplaçait, parce que les témoins des détenus disparus, souvent, étaient les gens qui étaient sur les cinémas dans les années 40. Et c'était un peu que moi, je sentais. On était, la réalité était tellement forte qu'on se sentait qu'on était au cinéma. Hein? Et on ne pouvait pas les prendre, quoi. Ça c'est... Et le film s'appelait Utopia, et Cinéma Utopia, donc... Et puis, ça commençait avec quelque chose de très joyeux. Dès le moment, il paraissait que des comédies musicales, voilà, et ça devenait dans un drame terrible qu'enchaînait, qui s'allève... ce qu'on fait, c'est deux pièces en une, hein? La pièce en dessous, etc., et celle d'en bas, hein? Il y a des moments aussi que la fille détenue disparue se rencontre avec son copain qui est exilié, mais ils ne se rencontrent pas dans l'écran, ils se rencontrent dans le cinéma. Ah, et ça, c'était un moment assez beau dans la pièce, etc. Et comme ça, les autres pièces aussi avaient, c'est dans l'écriture et la mise en scène. D'ailleurs, j'ai devenu metteur en scène, pas parce que je voulais, sinon parce qu'il y avait personne qui comprenait la structure dramatique des textes. Il y avait une visualité là-dessus très forte. À cette époque-là, au théâtre chilien, tout était très dogmatique dans le sens que les pièces étaient à la Mouchkine, à la Krotowski, à la Brecht, à la Stanislavski, sinon on ne comprenait pas qu'est-ce que c'était. Tu vois, à l'absurde, tous les mouvements qui sont classiques de Saint-Évant, du siècle, du XXe siècle. Et moi, je me sentais lié, comme je venais pas vraiment de... Je n'avais pas fait du théâtre comme concept, je ne me sentais pas lié vraiment à rien de ces... Je ne me considérais pas lié à cette tradition théâtrale.
Alors, qu'est-ce qui t'a influencé, toi, pour développer ton écriture?
Moi, je vois que c'était bon. C'était, évidemment, c'est l'expérience vécue, le fait qu'il étudiait la sociologie et de la culture. Je crois que ça commence par un discours politique que je veux mettre dans l'art, hein, plutôt que dans les théâtres. Pourquoi les théâtres? Parce que les théâtres, c'est le seul espace autonome que je pouvais moi-même gérer. On ne pouvait pas faire du cinéma au Chili, on ne pouvait pas faire un livre, parce qu'un livre, tu avais soin des librairies, les librairies n'allaient pas vendre ton livre si c'était subversif pour le moment. Donc, le seul espace autonome, c'était les théâtres. Alors, c'est ça, comme un instrument politique, j'ai choisi les théâtres à cet instant, tu vois, de où je peux parler. Tous les autres étaient fermés et censurés. Mais les théâtres, je peux arriver à les faire parce qu'ils ne dépendent pas de quelqu'un d'autre. Ils dépendent de moi-même.
Il n'y avait aucune censure sur le théâtre.
Mais oui, il avait. Il avait, mais c'était une censure économique que nous, on vraiment... D'abord, il avait une censure mentale. Hein? Il avait une autocensure très forte. Les gens qui étaient dedans parlaient tout en métaphore, etc. Parce que, effectivement, il avait beaucoup de peur. Mais nous, quand je suis arrivé, je me suis mis en contact avec une génération qui avait déjà presque plus de 10 ans. Peut-être qu'ils avaient 10 ans le jour du coup, il avait au même 8. Donc pour eux, l'état de dictature était un état normal. Ils savaient, donc ils les confrontaient comme quien confronte un père autoritaire. Ma génération, non. Nous, on voyait un militaire dans la rue et on tremblait, quoi. Hein? Parce qu'on avait vécu tous les... Et donc au début, cette génération qui n'avait pas peur de la censure, c'est ce qui a travaillé avec moi. Et effectivement, quand ils nous sont repérés, la censure était qu'ils devaient te donner un certificat que la pièce était culturelle. Si elle n'était pas culturelle, tu devais payer des impôts très hauts. Mais nous, on a décidé de ne pas payer les impôts et de non plus aller demander si on déclare la pièce culturelle ou pas. C'est ce que tous les autres faisaient parce qu'ils avaient peur qu'on ferme leur espace. Moi, on n'avait pas peur qu'on ferme l'espace parce que ce n'était pas à nous. Donc, mais finalement, les gens de la censure sont venus et à la longue, vous voyez comment se marchait le système. C'était des profs que les militaires nommaient, mais qui ne voulaient pas faire son boulot. Alors, ils me disaient, bon, on est 5. On va venir une chaque mois. Et on va faire traîner. Donc, après 5 mois, on va décider qu'est-ce qu'on va faire. Donc, il avait cette double chose qui passe par la... mais en même temps, on avait des militaires qui rentraient, qui nous cassaient les scénographies, ou une fois à rentrer l'armée même, parce qu'on faisait des grandes fêtes avec ce truc, pour demander qui nous on était. Hein? Alors, moi, je dis, on n'est pas des communistes. Il me dit, oui, si vous serez des communistes, je ne parle pas avec toi. Parce que ça faisait une image qui ne correspondait pas à l'image des jeunes classiques qu'on réprimait. Disons, ce n'était pas les gens avec les barbes, les poulons, laine, et tout ça, c'est une nouvelle génération. Et ils ne pouvaient pas voir très bien avec les groupes qui jouaient, ça s'appelait Pinochet Boys. Donc, c'était une chose qu'on ne comprenait pas. Parce que si tu t'appelles Pinochet Boy, c'est parce que tu es pour Pinochet. Donc il avait une ironie qui s'est travaillée là-dessus. Bon, la prochaine pièce qu'il a fait, c'était Nef Nef, la morgue. Et là, on a eu, là, il a été vraiment réprimé. Il y a eu des attentats et des choses. Bon, moi, je n'aime pas trop aller là-dessus parce que ça fait un peu de l'héroïsme, je ne sais pas, mais parce que c'était normal. Hein? C'est normal qu'on te casse la gueule, qu'on détruise les scénographies, qu'on t'appelle par téléphone, qu'on allait tuer ta famille, tout ça, c'était partie de la normalité. Et nous, notre mécanisme de défense, c'est le prendre comme normal et partie du jeu. Hein? Parce que si on le prenait avec la peur, on ne faisait rien. Hein? Et cette pièce a passé dans une morgue. Les Silly avaient devenu la morgue. La morgue, on dit ?
Et donc,
j'ai travaillé avec des grandes scénographies parce que, avec les fêtes, on avait arrivé à avoir d'argent, quoi. Alors, ces fêtes étaient politiques, sociales, et il était très connu, ça suffisait quelques photocopies, et on parle, et c'est la différence, un théâtre qui est sans publicité, sans rien, tu avais 800 personnes, etc. Parce que, et les gens ne les croyaient pas aux médias. Donc, nous, on n'allait pas les médias, n'allaient pas nous couvrir, donc on est inexistant. Ça, c'était la haute censure. Bon, j'ai jamais été à la télévision, rien. Ah, la télévision, jamais allé là-bas non plus. Mais ça, c'était bien. Ah, parce que ça fait ce moment à under. Donc, pour eux, censurer, c'est qu'on n'existait pas. Une fois est venu le type qui écrivait les discours de Pinochet, et pour voir ça, il m'a dit, regarde, nous, on ne va pas te fermer, ni te casser la gueule. Hein? Parce que, de toute façon, qui sait que ton théâtre existe? Le public qui vient pense comme toi, donc les mêmes choses, et si on ferme, tu vas faire tellement de baratins et trucs que fais ton théâtre, personne ne le voit. Hein? Mais ça a changé un peu après avec la dernière pièce, parce que Nef Nef la mort, et les pères de la patrie vivaient en dessous la table d'autopsie, la vierge patronne du Chili était enfermée dans la morgue, hein, et le directeur de la morgue évidemment était comme le directeur d'un camp de concentration, mais qui faisait l'amour avec les morts qui étaient dans ces... Hein, il avait une ambiance là, et on recevait des nouvelles de l'extérieur, hein, il avait des gens qui arrivaient, morts, une personne, mais que c'est dans la table d'autopsie, ils reprenaient. Mais il préférait rester dans la mort qu'y sortir, parce que s'il sortait, il mourait. Hein? Alors là, cette pièce était très, très fort. Et puis au niveau langage scénique aussi, c'était l'autre point. Nous, on a fait un manifeste sur le théâtre autonome. Hein, et autonome parce qu'on ne le devait rien à rien, et on est autonome parce qu'on est autonome nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il allait dire, c'est sur les... Sur les... Ah bon, non, non. Et dès le début, il avait un truc que moi, j'avais compensé, que les théâtres et les ce qu'on faisait, on ne pourrait pas représenter ni écrire comme est écrit et représente. Et n'était pas seulement les gens de la dictature, mais était aussi tous les théâtres qui existaient. Hein? Donc notre objectif, c'était... Et un objectif artistique d'abord. Hein? On toujours avoir la pensée que si on ne change pas les formes de représentation, de raconter quelque chose, et on ne change pas les sujets. Hein? Ça ne sert à rien que je parle de l'Internet si je parle de la même façon en termes formels ou d'écriture que quand on parle de n'importe quoi. Donc pour moi, la recherche du langage, tant dans l'écriture, comme dans les... c'était un objectif politique d'abord, mais qui était artistique, parce que pour moi c'est comme ça que les gens pouvaient pas aller voir, écouter de nouveau ça qu'on savait déjà, mais voir d'une autre perspective et pouvoir arriver au lieu. Et aussi parce que moi j'avais une pensée qui est une sensibilité qui était différente à la dissidence officielle et évidemment à la dictature. Et bon, et c'est là qu'il développe tout le travail pendant les guerres jusqu'à 89, qui arrive la démocratie. Et là, ça, c'est très. Et 89 tombe le mur aussi. Les Chiliens pensaient que ça allait arriver un autre système. Alors, il y a un problème pour se demander qu'est-ce que j'écris maintenant ? De quoi on écrit, de quoi on parle, hein ? Et là, en fait, j'ai fait un peu la transition de l'esprit de l'époque. Hein. J'ai arrêté d'écrire, parce qu'ils ont dit, oui, ça, ce n'était plus la dictature, ça a été la libération, c'était un autre monde, ça, ce qu'on pensait qu'elle allait arriver n'était pas arrivé, et c'était la grande entrée du libre marché, le pays était dans une grande croissance économique, 10% par an, ça se voyait, et ça s'est maintenu pendant les 10 années de démocratie. Donc, et j'ai commencé à écrire des histoires, des narratifs, publié un livre de narratifs, et là-dessus j'ai retrouvé de nouveau un chemin de quoi écrire pour les théâtres. Hein. Et là ça change un peu aussi l'écriture, et j'ai développé, qu'est-ce que c'est en fait, le principe de, à partir du travail de la dramaturgie de l'espace. Hein. Que c'est une perspective du théâtre de l'espace, dans le sens que cette dramaturgie de l'espace, ça fait une division entre qu'est-ce que c'est la poétique de l'espace et la poétique du texte. Mais c'est un principe de comment construire le langage et l'écriture théâtrale, pas à partir des modèles, parce que le modèle est déjà une vision, sinon à partir d'une relation directe de la construction de l'espace. Je crois que ça c'est très important. Parce que, bon, et c'est la façon que, en fait, moi, j'avais fait créer, parce que le théâtre classiquement, même l'écriture et tout, on l'apprend à partir de la partiture déjà faite, et pas à partir d'apprendre les notes. Alors les gens entraient dans un discours déjà fait, et c'était pour ça qu'on n'avait pas, au théâtre chilien, des grands théoriciens, des grands tout, parce qu'on reprenait déjà les discours faits et on les reproduisait. Donc, pour moi, je voyais qu'il y avait une grande nécessité et en plus, pour qu'on essayait de mettre en ligne mon travail, les critiques, évidemment, tout le monde a tombé sur les mots postmodernes, mais pour moi, c'est essentiellement d'auteur, un travail d'auteur. Hein. Et le principe de la dramaturgie de l'espace, c'est comment on construit un travail d'auteur, hein. Et comment la dramaturgie de l'objet fonctionne comme les jeux de l'acteur surgissent d'un concept, évidemment du texte, mais comme ce texte, je le place dans l'espace pour dire je t'aime. C'est pas la même chose si je me cloue des seringues, si je suis pendu ou si je suis à la plage. Et donc ces relations entre poétique d'espace et façon de construire les textes dans l'espace. Donc, qu'il soit d'une façon autorale, hein, et bon, c'est très très grand le concept, mais je ne sais pas si je m'explique bien. Hein, c'est un principe qui c'est tant pour les comédiens, pour les metteurs en scène, que comme pour l'écrivain. Hein, et bon, ça c'est une chose à part. Bon, après, j'ai fait à la dérive, Rio Abajo, qui est. Ça continue un peu. Non, avant Rio Abajo, j'ai fait une pièce qui s'appelle Extase, ou Les Sentiers de la Santité. Où, là, il n'y a plus un espace lié à un lieu, comme c'était Cinéma Utopia ou La Mort, qui effectivement l'écriture, non seulement est qui est dans un lieu de fiction, toutes les écritures sont dans un lieu, sinon que c'est. Elle est faite d'une façon. Dans Cinéma Utopia, s'il n'y a pas les gens dans l'écran et les gens dans les plateaux, ça ne marche pas. Hein? Comme à la dérive, qui est un bâtiment de 6 étages, de 3 étages avec 9 départements, où les textes sont puzzles dans l'appartement et à côté du fleuve, et qu'il est fait de telle façon pour penser que c'est les personnes qui parlent au quatrième étage, quand il parle de nouveau, s'il est à côté du fleuve, doit passer des choses entre, parce que j'écrivais avec les plans de l'espace à côté. Donc, c'est très difficile de construire ça. Parce que c'est construit directement avec l'espace. Mais dans Extase, ou Branche, le concept d'un espace conceptuel est prendre un texte qui est ouvert à l'espace qui les mettront en scène elles, et c'est plutôt ça. Hein. La extase, c'est quoi que c'est l'histoire de quelqu'un qui va être un saint, un saint, un jeune qui va être un saint. Donc je retombe surtout avant qu'on pourrait parler de la répression, de l'utopie sociale, pas de l'utopie sociale ratée, pas de l'utopie sociale qu'on veut, parce que évidemment il s'est écrit à l'époque qu'on s'est déjà raté, pas qu'on pas au début du siècle.
pas quand on pense, peut être encore réussi.
Voilà. Et l'autre vision, c'est que moi, j'ai aussi du théâtre, et que c'est un peu que le théâtre au Chili, ça a remplacé les partis politiques comme dans les rôles sociaux. Ça va, les partis politiques, c'est le lieu de la passion et des utopies, hein, et comme ça, de la fiction. Et les partis politiques ne sont plus les lieux de la fiction ni de la passion, sont des concierges. Et au Chili, le théâtre a pris très fort cette place d'être le lieu des idées et de la pensée. Mais comme je disais, bon, extase, c'est l'histoire de ce jeune homme qui va être un saint, et c'est là l'utopie personnelle qui commence à se confronter au monde réel. Hein? Et c'est une autre vision là, ça devient évidemment, je parle de notre histoire, mais c'est, il suit les chemins, différents chemins pour être saint. Hein? Donc il veut rencontrer les démons on dit. Mm-hmm. Alors il fait les plus grandes préparations pour les rencontrer face à face, et il cherche dans l'amour, etc. Mais c'est des chemins d'utopie individuelle, mais confronté en réalité qui n'accepte pas des utopies individuelles non plus. Hein? Mais plutôt que ça, c'était aussi c'est déjà une pièce plus ouverte. Moi, je n'ai pas raconté toute l'histoire de Téléchir, ça. Hein?
Ouais. Mais peut-être tu peux nous dire un petit peu vers quoi tu te diriges maintenant dans l'écriture. Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution énorme entre les premières pièces et la dernière? J'imagine qu'il y a une énorme réflexion qui a avancé.
Oui, je crois que c'est la première pièce. Et maintenant, d'abord, le monde a changé radicalement. L'esprit d'époque, ma situation comme individu, c'est radical. Hein. Je crois que peut-être les dernières 8 années n'est pas comparable à les 8 années avant. Les changements ont été brutaux. Et donc, effectivement, ça se voit dans l'écriture, ça se voit dans les réfléchissements, ça se voit dans les sujets, ça se voit dans les conceptions poétiques du langage. Ah, de comment on approche le langage. Et ça, il y a eu une évolution, évidemment. On ne sait jamais si c'est pour le mieux ou pas. Je constate normalement que c'est effectivement. Et je crois que maintenant. Et effectivement, il y avait une période, mais je ne l'ai pas pris si fort, mais j'avais à la fin de cette période où l'écrivain théâtral en Amérique latine était obligé d'avoir un compromis politique. Hein? On ne comprenait pas qu'on faisait de l'art si ce n'était pas pour avoir un message politique. Et bon, et même en Europe, non, les artistes compromis avec les peuples, les artistes avec la lutte, les artistes avec les trucs. Et ça, c'est un principe politiquement correct, c'est politiquement correct. Et artistiquement, c'était vraiment une censure. Parce que la façon d'être compromis n'était pas ouverte. Elle était déterminée par des formes. Le théâtre de gauche, c'est comme ça. Le théâtre de droite, c'est comme ça. La chanson de gauche, c'est comme ça. Tu vois? Donc, ces compromis, si bien. Hein? Et moi, dans le sens, je me suis libéré. Si je viens avec la conscience, mon premier rébellion, c'est oui, j'ai les compromis, mais pas comme vous le pensez. Hein? Je crois que ça, c'était fondamental dans la première période. Maintenant, et tout ça, on est libéré de tout ça, les artistes latino-américains, il y a encore reste, évidemment, mais comme passion, non, pour qui t'amène. Et maintenant, je sens seulement, je sens, et, parce que ça, c'est ce que j'ai dit aux étudiants, dit, tu parles de toi. Parce que toi, en toi, tu as l'espèce. En toi, tu as la perception que les autres ont, mais qui ne peuvent pas l'écrire parce qu'ils font des autres métiers. Hein? Donc, ça qui est en moi, maintenant, c'est les sources de l'écriture. Mais en moi, comme membre de l'espèce, mes pensées, ce n'est pas les miennes. C'est celles des autres aussi. Et je suis un peu dans ça. Hein? Et l'écriture centrée de que, évidemment, avec déjà avec les métiers pour dans l'écriture, mais plutôt centrée de que je n'ai plus une écriture qui doit se. Ah, il faut parler de travailleurs migrés, il faut parler de la Yougoslavie, il faut parler, tu vois, comme ces sujets politiquement corrects. Ah, et je vois une écriture vraiment liée à une liberté de langage et à une liberté comme, je ne sais pas le mot liberté, mais centrée sur qu'est-ce que je sens et c'est évidemment que et les sous-textes politiques dans la formation, moi qui suis ici, il est toujours là, c'est différent. Maintenant, entre guillemets, on dit le théâtre au Chili, c'est l'anticorps à la mondialisation. Hein? Parce que c'est là où on peut parler. Et c'est, finalement, quand je suis maintenant, chaque fois que je crois que je suis, que je dis, mais, oh, je suis au centre. Ils sont centrés dans les centres, pas la périphérie. Je vois que chaque fois, je me trouve à la marche. Parce que maintenant, les centres, c'est les théâtres des marchés, les trucs, etc., etc. Mais bon, ça, vraiment, ça, mais c'est plutôt pour voir les contextes, quoi. Mais c'est ça.
Ok.
Ok, c'est assez.
Non, mais c'est comme tu veux. Si on peut peut-être parler plus précisément de travail que tu as fait avec les élèves du théâtre de la Chimère, hein, et tes élèves à toi de
ah, oui. 6. Bon, et on a fait ce trait quand les Français étaient à Santiago, la commission là, la commission. Et on a envisagé un échange dans lequel les trois comédiens français du théâtre de Chimère allaient à l'école qui se dirige à Santiago. Avec quatre comédiens chiliens, on faisait un spectacle qui ont monté à Santiago et puis on l'a mené en France. Hein. Il faut dire dans ce truc de rencontre que ça c'était possible parce que quand je présentais à l'université qui donne l'argent pour le projet, il était intéressé parce que c'était un texte chilien qui venait en France. Et que je n'ai pas parlé ça hier, j'ai oublié dans cette réunion Tintas Frescas. C'est que si je dis que je vais faire un texte français, les Chiliens vont me dire, l'institution demande l'argent à la France. Parce que c'est normal. Tu vois? Alors parfois on dit, et on ne peut pas faire des rapports avec l'Amérique latine parce qu'il n'y a pas de fric, non. On peut faire des rapports, mais les gens, l'institution culturelle va investir les peu de fric qu'ils ont, dans des choses, pas pour diffuser la dramaturgie d'un autre pays, parce que évidemment, ils ont la pression des auteurs locaux que l'art a une version soit pour diffuser l'écriture contemporaine chilienne, pas pour diffuser l'écriture contemporaine d'ailleurs. Donc, dans ce sens, tu vois, on a parlé en janvier et on a tout de suite, même très vite, eu l'argent pour le faire parce que là, oui. Hein, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut envisager dans ce truc ancré noir. S'il a seulement l'intention de diffuser des auteurs français, vous allez vous retrouver de qui on va dire oui, paye-les. Hein? Vous comprenez? Hein?
Oui, bien sûr.
Et dans ce sens, peut-être qu'il n'est pas très bien fait dans les retours pour qu'on puisse dire. Et dans ce cas, avec cet échange, oui, on a arrivé à faire ça. Parce que d'abord, oui, moi je viens avec mes textes et en deux langues et au travail avec, et même si c'est des pires représentations, mais c'est l'expérience qui compte. Et la deuxième partie du projet, c'est alors qu'il va un texte français qui s'en prépare ici et que j'envoie les comédiens chiliens, retourne au Chili. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'on a, je crois que les institutions ont un peu paranoïa de qu'on a seulement un côté et jamais le retour. Parce qu'on a eu déjà cette expérience. Il y a 4 années, il y a eu toute une semaine, etc., d'un échange avec des auteurs de théâtre contemporain français, où on faisait des mises en place, des textes, etc., etc. Et on attendait le retour qui n'est jamais arrivé. Donc on dit, on ne va pas de nouveau ouvrir tous nos ports, nos énergies et tout ça pour un échange qui ne va pas exister. Hein? Comme ça, je crois qu'il faut le mettre clair, et surtout dans les cas chiliens où vraiment il n'y a pas, dans ces moments, parce que le théâtre Santiago constituait à Chili son propre centre, donc les références théâtrales du genre des comédiens, c'est le théâtre qui est en train de surgir. On a à Santiago, on fait le festival de la dramaturgie contemporaine, d'écriture contemporaine chaque année, où on a plus de 200 textes qui arrivent, les 10 qui gagnent, on monte les pièces. Alors, il a beaucoup d'envie de voir l'autre, mais de l'autre du même territoire. Hein? Qu'est-ce qu'il lui est en train d'écrire, etc., etc. Et il n'avait pas cette angoisse des années 60-70 de savoir qu'est-ce qui passait en Italie, en Espagne, en Europe, pour voir qu'est-ce que nous, on devait faire. Comme ça, ça n'existe plus. S'il arrive ou n'y arrive pas une écriture contemporaine, d'ailleurs, ça ne produit aucun effet. Hein? Comme si ça produisait avant, qu'on disait, oh, oui, vous allez l'envoyer, s'il vous plaît, envoyez-nous, parce qu'on a tellement d'envie. Hein? Et c'est pour cette raison que, comme il dit, ce mouvement, c'est nouveau, d'être, le truc d'être auteur théâtral, hein? C'est un principe très fort aussi maintenant dans les théâtres. Auteur tant comme metteur en scène, tant comme, comme construction de langage, comme j'ai construit un langage théâtral. La tradition est là, c'est nos références, c'est bien, mais ce n'est pas pour la photocopier, c'est pour nous nutrir. Hein? Et ça crée un grand mouvement théâtral dans ce sens. Et donc, il faut aussi avoir ces renseignements. Et c'est pour ça que de ces premières, deuxième fois qu'on a eu des traductions françaises, des trucs, etc. Il n'a pas eu de suite. C'est pas que ça produit que les gens ont monté les pièces. Hein? Parce que non plus, il a eu une relation assez... Comment s'appelle? C'était d'un côté seulement. Donc, je crois que dans tout ce que ces projets vraiment prennent, d'impact et tout ça, ça doit être avec des relations personnelles, où l'art a toujours l'émotion, tout ça, et des retours, et pas qu'avec des relations diplomatiques. Parce que seulement comme ça, ça va permettre qu'une écriture est accueillie avec, entre guillemets, l'amour et tout ça. Bon, c'est bien, qu'est-ce que vous dites, voilà la mienne. Hein? Mais sinon, ça ne va pas rentrer, et en plus, ça ne manque pas. Comme ça ne manque pas, c'est pas nécessaire. Hein? Et je crois que ça c'est. Et c'est pas nécessaire parce que non plus, je crois, et que ça c'est notre problème à discuter, c'est que l'écriture française amène, ça pourrait être, hein, des sujets qui vraiment nous frappent. Parce que là, bon, on est tout le monde ouvert. Hein? Je crois que ça c'est aussi une autre question. C'est pas que ça arrive un texte qui dit waouh, ou que ce texte amène à un langage théâtral que nous on n'envisage pas. Ça amène des choses qui sont très synchroniques. Hein? C'est comme moi, j'étais une fois à un rendez-vous à Berlin, et on a lu un de mes textes, et une critique a dit, oui, c'est très pareil à Tancred d'Orst. J'ai dit, je suis désolé, monsieur, pourquoi vous ne dites pas le contraire? Oh, qu'on est égal, pourquoi vous ne dites pas, ils sont similaires, mais vous n'allez jamais dire que mon texte est pareil, que le texte de Tancred d'Orst est pareil à la mienne, mais vous avez le pouvoir de dire le contraire, mais je suis désolé, c'est pas comme ça. Hein, là, il y a eu une discussion. Et je crois que ces changements, et que c'est nouveau, hein, c'est nouveau disant, peut-être que c'est pas encore clair ici. Et je crois que c'est encore les relations avec la vieille gare, qu'effectivement, comme hier disait monsieur, les gens rêvaient de Paris. Maintenant, les gens ne rêvent pas de Paris. En plus, ils rêvent de la île de Pâques. Ils préfèrent. Hein, on rêve de tout, si tu veux, mais pas de Paris. Hein. On rêve du monde. Évidemment, on veut aller à Nouvelle-Zélande, en Islande, etc. Mais il n'a plus les liens pour y aller. C'est ça.
Donc, on se retrouve bientôt.
Et bien sûr.
Merci beaucoup, Ramon.
Okay.